Ce soir, nous recevons donc le professeur Olivier Kella. Le professeur Kella est agrégé de droit public et titulaire d'un doctorat de droit public. Il est actuellement directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est membre de la section droit public du Conseil national des universités, secrétaire général de la Société française pour la philosophie et la théorie juridique et politique, membre du Centre de théorie du droit de l'Université de Paris 10, unité associée au CNRS. Il a reçu un prix de thèse de l'Université de Paris 2 et le prix Dupin aîné de l'Académie de Paris pour sa thèse sur la notion de signification en droit, contribution à une théorie du droit naturel de la communication, 1992. Ses publications sont nombreuses, il contribue à de nombreux articles dans des revues généralistes et spécialisées, et il est membre du comité de rédaction de la revue Société Contemporaine. Professeur Olivier Kella, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, merci à tous d'être venus, merci aussi aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de présenter un topo sur la question de la responsabilité de l'État, et en même temps je dois immédiatement tempérer les remerciements par le fait que, pour dire la vérité, il s'agit d'un sujet véritablement impossible. Il est impossible d'abord parce qu'il est très vaste. Et je préviens d'avance qu'il est hors de question pour moi de prétendre à l'exhaustivité, que nécessairement je devrais me focaliser sur certains points, certains aspects du sujet, et en laisserai nécessairement une infinité d'autres. Mais surtout, le deuxième inconvénient de ce sujet, c'est que, en dehors de la complexité et du haut degré de technicité qu'il peut comporter pour certains aspects, il y a essentiellement le fait qu'il repose dans son intitulé même sur des concepts qui font l'objet à peu près de tout ce qu'on voudra, sauf de monosémie. Ce sont des concepts, celui de responsabilité autant que celui d'État, responsabilité de l'État, des concepts exagérément polysémiques et qui connaissent une quantité impressionnante de définitions différentes. Si je prends le concept d'État, le vocabulaire du droit admet au moins une première définition traditionnelle qui définit l'État donc comme étant un ensemble de trois éléments, un territoire, une population et surtout un rapport de gouvernement qui s'exerce sur cette population et dans le cadre de ce territoire, rapport de gouvernement qui a, dit-on, la qualité d'être souverain. Il y a donc État lorsqu'il y a un territoire, une population et une instance souveraine, une souveraineté, et on parle donc de la souveraineté comme critère essentiel de l'État. Il y a une deuxième définition possible de l'État qui ne fait absolument plus mention de cette dimension de la souveraineté qui est donnée par un auteur contemporain autrichien qui s'appelle Kelsen et qui définit l'État simplement comme l'ensemble des normes juridiques en vigueur sur un ensemble territorial déterminé s'exerçant sur une population déterminée. Mais donc ce qui est l'État, c'est l'ensemble de ses règles de droit, c'est le système même des normes juridiques. Enfin, il y a une troisième définition qui, elle, est issue de la pensée juridique allemande du XIXe siècle et qui est une pensée à haute teneur idéologique dans la mesure où elle a été la matrice de ce qu'on appelle la pensée de l'État de droit, Rechtsstaat, et qui définit l'État essentiellement comme une personne morale, qui se distingue des autres personnes morales et qui se distingue aussi et surtout des personnes privées, mais qui, comme toute personne, détient des droits et des obligations, et peut par conséquent agir, pourvu qu'il le fasse par des représentants qui agissent en son nom. Mais donc l'État est un être véritablement assimilable à une personne physique, pouvant évoluer dans le domaine du droit, dans le monde du droit, être assujetti à des obligations et bénéficier de prérogatives semblables à celles de toutes les autres personnes. Ce troisième concept est évidemment très important pour nous, dans la mesure où l'État apparaissant dans le sujet d'aujourd'hui comme le titulaire, comme le détenteur d'une responsabilité, comme étant le sujet d'une responsabilité, le fait qu'il soit une personne est évidemment plus ou moins nécessaire pour qu'on puisse penser l'idée même d'une responsabilité de l'État. Mais l'inconvénient, c'est que ces trois définitions, parmi d'autres encore possibles, sont difficilement compatibles entre elles, en particulier la première et la troisième. L'idée d'un État souverain, d'une part, et l'idée d'un État personne responsable, d'autre part, sont deux idées qui ont plutôt tendance à entrer en contradiction l'une avec l'autre si on admet que le souverain, par principe, n'est jamais astreint à la moindre obligation. Deuxièmement, le concept de responsabilité. Le problème, c'est de distinguer non seulement un concept juridique de responsabilité, puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est du droit. Or, il se trouve que depuis quelque temps, la responsabilité, il en est hautement question dans énormément de publications, mais celle dont on a surtout entendu parler, ça a été surtout celle des philosophes, la responsabilité au sens philosophique ou éthique du terme, la responsabilité dont traitent les philosophes de philosophie morale, Paul Ricoeur, Levinas, Hans Jonas, ou encore François Ewald, qui, bien que s'est emporté dans un best-seller qui s'appelle État-providence, ayant porté son attention sur le phénomène du développement de la responsabilité au sens juridique du terme, a néanmoins traité la question plus en philosophe qu'en juriste. Donc la responsabilité au sens éthico-philosophique d'un côté, est-ce que c'est la même chose que la responsabilité en droit ? Évidemment pas. La responsabilité en droit, c'est, d'une manière générale, la possibilité de faire une action en justice de manière à demander à la personne responsable de répondre de ses agissements avec toute la sanction qu'il est possible d'en tirer. Et c'est évidemment le fait qu'il soit possible d'agir en justice qui est l'une des grandes caractéristiques de la responsabilité juridique, ce qui n'est pas le cas de la responsabilité morale. Mais le problème, c'est qu'en plus, pour ce qui concerne le droit positif, la responsabilité, on la rencontre dans des différents domaines et le terme même de responsabilité, accolé à un qualificatif, donne des significations très différentes selon qu'on examine l'une ou l'autre. Il y a en effet au moins quatre espèces de responsabilité, quatre registres différents de la responsabilité en droit, qui sont présents à l'esprit de tout le monde, mais qu'on a du mal à définir. La responsabilité civile, la responsabilité pénale, la responsabilité administrative et la responsabilité politique. Si on se penche sur les manuels de droit pour voir ce que c'est que chacune de ces responsabilités, on entre rapidement dans une très grande confusion parce qu'on a du mal à trouver les critères qui permettent de distinguer nettement, par exemple, la responsabilité civile de la responsabilité administrative ou de la responsabilité pénale de la responsabilité civile, etc. Il y a donc une assez grande confusion. Il se trouve que cette confusion, puisqu'elle est déjà présente en grande partie chez les juristes, qui ont beaucoup de mal, comme d'ailleurs j'aurai l'occasion de le montrer plus particulièrement pour un aspect du problème, il se trouve qu'elle est évidemment aussi très grande dans le grand public. Et elle l'est dans le grand public, tributaire en grande partie de ce que les médias disent de la responsabilité juridique. Et j'ai l'exemple devant moi, flagrant, d'une confusion ahurissante commise par un quotidien du soir, comme on dit, du jeudi 1er juin dernier, où il est question, dans le contenu de l'article, d'une responsabilité de l'État à propos de l'affaire de l'amiante. L'État a été reconnu par un tribunal, qui est le tribunal administratif de Marseille, responsable du fait de ne pas avoir pris suffisamment tôt une réglementation qui s'impose dans les entreprises pour protéger le personnel contre les inhalations d'amiante, et le fait qu'un ouvrier ait été victime d'un cancer consécutif à une inhalation d'amiante ou à une répétition d'inhalation d'amiante, l'État est fautif pour avoir temporisé ou tardé dans l'édiction d'une réglementation qui permette de protéger les travailleurs contre le danger que représente l'amiante. C'est typiquement cette responsabilité, une responsabilité administrative. Elle a joué de manière à ce que l'ouvrier, ou du moins sa famille, puisque l'ouvrier était mort, bénéficie d'une réparation de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé. C'était une responsabilité administrative. Or, le journal Le Monde titre l'article « L'État jugé pénalement responsable de plusieurs décès liés à l'amiante ». Il n'y a strictement aucun rapport entre le titre et le contenu de l'article. On parle de responsabilité pénale dans le titre de l'article, de responsabilité administrative dans l'article lui-même. En plus, il se trouve que le titre est absurde. L'État jugé pénalement responsable, comme on va le voir, s'il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que l'État n'est jamais pénalement responsable. Il n'y a pas de responsabilité pénale de l'État. Donc ça prouve le degré de confusion et, à vrai dire, devant cette difficulté, le fait que la matière soit confuse, je me demande, et je me suis demandé avant de venir évidemment, comment faire pour traiter le sujet, et comment, en même pas trois quarts d'heure, rendre clair ce qui est obscur. Finalement, je crois que le mieux, c'est de tirer parti du fait qu'il y a confusion, d'admettre que c'est confus, et même de se pencher sur le fait que c'est confus, et d'y voir la principale caractéristique de la question de la responsabilité en droit et de la question de la responsabilité de l'État. C'est confus, et c'est pas étonnant, parce que précisément tout le sens de l'évolution de la responsabilité de l'État, c'est d'aller de la distinction vers la confusion. C'est ce que je voudrais essayer de montrer, dans un premier temps, que l'évolution du droit de la responsabilité opposable à l'État, cette évolution va dans le sens d'une confusion croissante de différents types de responsabilités qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, qui se confondent les unes avec les autres et qui font d'ailleurs qu'on commence à n'y plus comprendre grand-chose. Et que cette confusion croissante a une signification très particulière. C'est la signification d'une soumission progressive de l'État à un droit commun de la responsabilité. Plus le XXe siècle se déroule, comme on va le voir dans un bref récapitulation historique, plus la responsabilité imposable à l'État est une responsabilité au départ dérogatoire du droit commun et à l'arrivée de plus en plus proche du droit commun. C'est-à-dire que la responsabilité de l'État exceptionnelle au départ est à l'arrivée une responsabilité normalisée du type de celle auxquelles sont assujetties les personnes, toutes les autres personnes, celles qui ne sont pas l'État. Que cette évolution, qui entraîne une confusion, est une évolution qu'on comprend assez facilement quand on voit les exigences nouvelles des citoyens dans les sociétés contemporaines, exigences de sécurité en particulier, de plus en plus grandes en matière, par exemple, d'alimentation ou de santé, où les citoyens exigent de plus en plus vigoureusement auprès des pouvoirs publics, non seulement que les pouvoirs publics agissent, et de manière avisée, avec prudence, pour protéger les citoyens contre les différents risques alimentaires ou en matière de santé publique, et qu'en cas de manquement à cette obligation de discernement ou de jugement avisé de la part de l'État, que l'État soit sanctionné pour faute et qu'il soit possible d'agir contre lui. Évidemment, il y a un exemple paradigmatique sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, qui est le procès du sang contaminé, où on a demandé des comptes à des agents de l'État. Évidemment, cette évolution pose un problème, c'est que le droit de la responsabilité de l'État, s'alignant de plus en plus sur le droit commun, celui qui s'applique aux autres personnes, aussi bien les personnes privées que les autres personnes publiques, cette évolution qui fait que l'État est traité de manière de plus en plus identique, de la même manière que les autres personnes, fait qu'il est de moins en moins facile de continuer de penser ce qui fait la spécificité de l'État, qu'est-ce qui fait sa singularité, son caractère d'exception. Et certains vont même jusqu'à dire que cette évolution du droit, de la responsabilité de l'État, est une évolution qui menace de dissoudre l'État lui-même. Alors ça a évidemment un inconvénient politique, parce que si l'État est dissous, on voit difficilement comment il sera possible d'envisager de continuer d'assurer le gouvernement des hommes par d'autres hommes. C'est donc la question politique principale. Mais il y a aussi une autre conséquence néfaste dans cette dissolution progressive de l'État, c'est le fait que la branche du droit qui prétendait déterminer quelles étaient les obligations qui s'imposent à l'État, et qui s'impose spécifiquement à lui. Cette branche du droit qu'on appelle le droit public, cette branche du droit elle-même perd sa spécificité, il n'y a plus de possibilité de véritablement faire la différence entre le droit public et le droit privé, d'où la très grande inquiétude de la part d'une catégorie de juristes très particulière, c'est-à-dire les juristes spécialistes de droit public, c'est-à-dire les universitaires qui enseignent cette discipline, donc le professeur de droit public, la réaction de très grande hostilité à l'égard de cette évolution du droit, qui introduit de plus en plus de confusion, en particulier parce que pour les professeurs de droit public, le droit public qu'ils enseignent et qui est leur objet tend à également s'effacer. Et donc ce qu'on examinera dans un deuxième temps, plus rapidement, c'est cette réaction d'un courant de la pensée juridique, celui des publicistes ou des spécialistes de droit public, qui protestent contre cette évolution du droit de la responsabilité de l'État, mais qui, ce faisant, utilisent des arguments qui introduisent de nouvelles confusions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Donc d'abord, l'évolution du droit de la responsabilité applicable à l'État, dans le sens donc d'une confusion croissante. Au départ, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, c'est-à-dire au moment où la Troisième République a été mise en place, les choses étaient nettes et claires. Il y avait, en raison d'un dogme, dont j'ai déjà parlé à propos de la première définition possible de l'État, qui était le dogme de la souveraineté de l'État. En raison de ce dogme, de ce principe absolu, il était facile de concevoir que l'État ne pouvait non pas ne pas être responsable du tout, mais ne pouvait l'être qu'autrement que ne le sont les autres personnes, en particulier les personnes privées. En effet, si l'État, si on pouvait admettre qu'il crée des dommages et qu'il soit obligé de les réparer, malgré tout, il a été tout de suite admis comme étant évident, à cause de sa souveraineté, qu'il n'avait pas à supporter l'obligation de réparer les dommages qu'il avait causés devant le même juge que celui devant lequel les personnes privées doivent aller. Que s'il était responsable, il n'était pas responsable comme tout le monde, et que donc il devait bénéficier d'un régime plus favorable qui lui permettait de ne pas être sanctionné toutes les fois qu'il commettrait des dommages, et d'autre part qu'il devrait répondre de cette obligation devant un juge spécifique, un juge qui n'est pas le juge de droit commun. Cette première affirmation, qui était celle du droit positif du début du XXe siècle, c'est celle qui revient à dire que l'État n'est pas civilement responsable. L'État n'est pas civilement responsable, l'État n'est pas assujetti à la responsabilité civile qui s'impose aux personnes privées. Par ailleurs, l'État ne peut pas non plus mal faire au point d'être assimilé à un délinquant ou un criminel. On ne peut pas imaginer que l'État puisse avoir des agissements qui seraient réputés être criminels ou des actes de délinquance. Bref, l'État n'est pas non plus pénalement responsable. Donc la position de départ, c'est que l'État n'est responsable ni civilement ni pénalement. Ces deux affirmations, au début du XXe siècle, continuent en principe de valoir. Aujourd'hui, un siècle plus tard, l'État n'est toujours pas civilement responsable ni pénalement responsable. Cela dit, il y a eu le développement d'un certain nombre de phénomènes parallèles qui permettent de relativiser beaucoup cette affirmation et de voir qu'il y a, en réalité, peut-être plus sur le terrain du fait que sur le terrain du droit, mais en réalité, une ressemblance de plus en plus grande de la responsabilité non civile de l'État à la responsabilité civile des autres personnes et une introduction croissante de la responsabilité de l'État par des voies détournées. Bon, d'abord, la question de la responsabilité civile. Donc j'ai dit qu'il n'y avait en principe pas de responsabilité de l'État en matière civile. Vous connaissez tous le texte de principe qui définit la responsabilité civile pour toutes les personnes de droit privé, vous et moi. C'est le fameux article 1382 du Code civil. « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En 1873, un tribunal, le tribunal des conflits, a rendu un très grand arrêt, célébrissime pour les spécialistes du droit administratif, l'arrêt Blanco. L'arrêt Blanco 1873 qui affirme principalement que cet article 1382 du Code civil que je viens de vous lire, qui fait l'obligation à tout individu de réparer les dommages qu'il a causés, cet article n'est pas applicable à l'État. L'État, lorsqu'il crée un dommage, n'est pas obligé de le réparer dans les conditions définies par l'article 1382. Je vous lis le considérant de principe de cet arrêt Blanco. Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier. Que cette responsabilité, donc celle de l'État, n'est ni générale ni absolue, c'est-à-dire implicitement à l'inverse de ce qui se passe pour les particuliers et pour la responsabilité civile, où la responsabilité est au contraire générale et absolue. Que cette responsabilité administrative, elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Que dès lors, au terme, etc., l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître. Donc, à la différence de la responsabilité qui s'impose aux personnes privées en vertu de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité qui s'impose à l'État sur le plan, enfin pour la réparation des dommages que l'État aura causés, pour des faits qui sont les siens, qui peuvent être fautifs ou non fautifs, qui peuvent être donc des faits donnant naissance à une responsabilité pour faute ou pour une responsabilité sans faute, peu importe, dans tous les cas, cette responsabilité ne présente pas de caractère absolu et général. Elle se définit comme une responsabilité dérogatoire du droit commun, comme une responsabilité d'exception, Et par ailleurs, elle peut être mise en jeu devant un juge spécifique, qui n'est pas le juge judiciaire, qui n'est pas le juge devant lequel nous devons aller, vous et moi, dont l'instance suprême est la Cour de cassation, mais un juge très particulier qui est le juge administratif, dont l'instance suprême est le Conseil d'État, ce juge ayant comme particularité d'être non pas à proprement parler un juge indépendant, mais d'être composé d'individus qui ont le statut de fonctionnaire, c'est-à-dire d'agent de l'État. Donc, pour toutes ces raisons, au départ, à l'époque de l'arrêt Blanco, on peut dire qu'une opération simple a été faite. On a distingué une responsabilité administrative de la responsabilité civile, précisément pour traduire cette difficulté dont je parlais tout à l'heure, qui est la difficile conciliation de deux exigences, toutes les deux impliquées par le même concept d'État, à la fois l'idée que l'État est souverain et à la fois l'idée que l'État est une personne. S'il est une personne, il doit pouvoir être responsable comme n'importe quelle autre personne, mais puisqu'il est souverain, il ne peut pas être responsable comme l'est n'importe qui. Donc, on admet qu'il soit responsable, mais de manière dérogatoire du droit commun, c'est-à-dire d'une manière qui lui soit favorable. Autrement dit, pour appeler un chat, on admet que l'État, s'il doit être responsable, le soit quand même moins que nous le sommes, vous et moi. Alors, cette tension entre l'exigence d'État souverain et d'État sujet du droit en tant que personne, cette conciliation est assurée par ce concept de responsabilité administrative. Pendant un certain temps, cette responsabilité administrative s'est mise en place de manière pas trop problématique. D'abord, puisque on voulait considérer le fait que l'État est souverain et qu'il est difficile d'imaginer qu'un souverain puisse commettre des fautes, il y a quelque chose qui s'est mis en place facilement, c'est la possibilité d'une responsabilité sans faute de l'administration ou de l'État. Ce qui fait que la responsabilité sans faute s'est développée sans problème théorique majeur. C'est notamment un arrêt CAM de 1895 qui admet une possibilité de réparation pour les accidents du travail qui ont été causés aux agents de l'État travaillant dans un service public. Et ceci est tout à fait remarquable parce que c'est le juge administratif qui a reconnu jurisprudentiellement cette possibilité de responsabilité pour risque du travail, avant même qu'une loi soit adoptée qui accorde la même chose aux agents qui travaillent sous l'empire d'un contrat de travail avec un entrepreneur privé. Autrement dit, la responsabilité pour risque est apparue en droit administratif avant d'apparaître en droit civil. Deuxièmement, d'autres cas de responsabilité sans faute que la responsabilité pour risque ont été reconnus sans difficulté. Il y a eu en particulier un régime de responsabilité qui s'est mis en place pour assurer la réparation des dommages qui sont causés par des activités de l'État et notamment des activités normatives qui, bien qu'étant des activités parfaitement régulières, peuvent néanmoins causer du tort, un préjudice à certains individus qui, de ce fait, apparaissent comme, par rapport à la norme édictée par l'État, apparaissent dans une situation d'inégalité par rapport aux autres citoyens. C'est ainsi qu'on a admis la possibilité d'une responsabilité du fait des lois, le fait que l'État légifère en adoptant un texte législatif particulier et que cette loi produise comme effet de viser une personne. Par exemple, imaginons que la loi fasse l'obligation au producteur, je ne sais pas, de crème fraîche, de ne fabriquer la crème fraîche qu'à certaines conditions techniques particulières et qu'il n'y ait en France qu'une seule entreprise qui fabrique de la crème fraîche, qui traite la crème fraîche. Dans ce cas, la loi ne s'applique qu'à cette entreprise. Et du fait du poids des obligations qui pèsent sur elle, il y a absence d'égalité dans les charges qui pèsent sur elle, les charges publiques qui pèsent sur elle, par rapport aux autres personnes et aux autres citoyens. Et donc, on admet que bien que la loi ne puisse pas commettre de tort, bien que la loi ne puisse pas être fautive, malgré tout, elle puisse causer un préjudice. Il y a donc, du fait de l'exigence de justice et d'idée d'égalité, la reconnaissance d'une possibilité pour l'État de faire un préjudice, de préjudicier aux intérêts des citoyens, bien qu'il n'y ait pas de faute commise par l'État. Évidemment, on ne peut pas imaginer une seconde que la loi puisse commettre une faute, surtout sous la Troisième République, au début du XXe siècle, où l'idée que la loi était sacrée était absolument dominante, parce qu'elle était directement l'expression, justement, de la souveraineté du peuple. Bon, je passe sur les détails, le développement de ces responsabilités sans faute, sur le fondement soit du risque, soit du principe d'égalité devant les charges publiques, et j'en arrive à l'idée de responsabilité pour faute de la part de l'État. En effet, on admet, comme pour les personnes privées, comme en droit civil, que l'État soit obligé de réparer les fautes qu'il a commises. Cela dit, ce qui fait qu'on déroge dans le domaine du droit administratif par rapport au droit commun, c'est que l'État peut commettre un certain nombre de fautes sans que ça engage sa responsabilité, alors que dans le même temps, pour les mêmes fautes, les personnes privées, elles, seraient obligées de réparer les dommages causés. Autrement dit, la jurisprudence administrative admet qu'il faille, pour engager la responsabilité de l'État, que celui-ci commette des fautes lourdes dans un certain nombre de domaines et pas simplement des fautes ordinaires. Il faut que l'État commette des fautes vraiment graves, des fautes manifestement évidentes, inexcusables, impardonnables, pour qu'on admette qu'il soit obligé de réparer les dommages. Ce qui revient donc, à contrario, à admettre que l'État, quand il fait une simple faute, ne soit pas obligé de réparer les dommages. Alors, c'est évidemment par égard pour les prérogatives de la puissance publique, pour la souveraineté de l'État, plus la difficulté liée à certaines missions spécifiques de l'État, qu'on restreint ainsi le jeu de la responsabilité de l'État en matière administrative. Il y a en effet des tas d'activités où on admet que l'État fait un travail qui n'est quand même pas de tourpeau, par exemple celui qui consiste à garder les frontières, à assurer le contrôle, par exemple, de la navigation aérienne, à assurer la surveillance des prisons, la police administrative, etc., où il y a devoir faire face à des situations de danger qui font que si l'État commet une faute dans le fonctionnement et l'organisation même du service public, on ne puisse admettre que ça n'engage sa responsabilité que si la faute est vraiment lourde. Également des domaines où les compétences techniques que l'État doit détenir sont particulièrement élevées. On pense par exemple à la matière fiscale ou par exemple à la matière médicale, ce sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure, mais traditionnellement, pendant longtemps, les fautes commises par des représentants de l'État, que sont les médecins hospitaliers à l'hôpital. Ces fautes commises à l'hôpital ne pouvaient engendrer, quand il s'agissait de fautes médicales en tout cas, ne pouvaient engendrer la responsabilité de l'État que si cette faute était lourde. Par ailleurs, on admet la responsabilité de l'État que si la faute est relative au fonctionnement du service, qu'il y a eu faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service. Si la faute est imputable personnellement à un agent qui, par exemple, dans le cadre de son service, a simplement eu un geste de vengeance personnelle, a sorti un revolver, un agent des postes qui sort son revolver et qui se met à trucider quelqu'un dans la poste, ceci sera considéré comme une faute qui n'est pas imputable au service public, évidemment, mais à une faute imputable à l'agent de manière personnelle, et dans ce cas, la compétence sera la compétence civile dont l'État n'aura pas à connaître, mais ce sera l'agent lui-même qui devra répondre de son acte devant le juge judiciaire, c'est-à-dire le juge de droit commun. Bon, voilà quel était le point de départ. Le point d'arrivée, c'est que tout ce que j'ai dit, en particulier à propos de la responsabilité pour faute, a considérablement évolué. Et tout simplement, de manière générale, on doit pouvoir dire que la jurisprudence la plus récente en matière de responsabilité administrative s'est alignée ou s'aligne de plus en plus sur la jurisprudence civile, c'est-à-dire que sur le plan du contenu même des règles de responsabilité opposable à l'administration, il y a de moins en moins de différences avec les règles de droit civil applicables aux personnes privées. Il y a un domaine en particulier où ce phénomène a été spectaculaire, c'est le domaine précisément de la responsabilité médicale à l'hôpital. En effet, si on résume, il y a trois grandes positions en matière de responsabilité de la part du juge vis-à-vis de l'hôpital. Premier cas de figure, il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles la responsabilité de l'hôpital joue dans tous les cas, même quand il n'y a pas eu de faute. C'est une simple responsabilité pour risque. C'est le cas lorsque l'hôpital, ou du moins lorsque les médecins, utilisent pour les soins à apporter, des techniques expérimentales dont les effets ne sont pas bien connus et qui peuvent être des effets causant des dommages irréparables. Également, les actes médicaux ordinaires, dont on sait
qu'ils peuvent, mais avec une probabilité infime, de temps en temps déclencher des effets, des accidents graves, mais de manière infinitésimale. La probabilité est infime. Ce qui fait qu'on ne va évidemment pas sanctionner un médecin qui aurait appliqué ce traitement médical, parce que par ailleurs, il s'agit d'un traitement parfaitement banal, mais on va donc automatiquement dédommager, sur le fondement du risque, les personnes qui auraient été, dans les cas très rares, victimes d'un préjudice. Par ailleurs, pour les actes proprement médicaux, en dehors de ces deux cas que je viens de parler, tous les actes médicaux, c'est-à-dire tous les actes accomplis par un médecin, ou sous le contrôle d'un médecin, sont des actes qui, traditionnellement, dans la jurisprudence du début du siècle, devaient apparaître comme fautifs de manière lourde pour qu'ils puissent engager la responsabilité. La jurisprudence récente admet que, non pas une simple faute, une faute simple, mais en tout cas a laissé tomber l'exigence de faute lourde. La jurisprudence parle maintenant de faute médicale. Il ne parle pas de faute simple, il parle de faute médicale. Alors, si faute médicale, c'est peut-être pas tout à fait une faute simple, parce que on admet qu'il y ait des cas où le médecin ne puisse pas, même s'il a commis une faute, ne puisse pas malgré tout voir sa responsabilité jouer, sinon il ne peut plus exercer convenablement son art. Malgré tout, le fait que le juge ait cessé d'abandonner le terme faute lourde est tout de même significatif d'une plus grande, évidemment, admission des cas où l'acte médical pourra être, s'il est fautif, faire apparaître la possibilité d'une mise en jeu de la responsabilité de l'État. Enfin, quand je dis de l'État, c'est pas tout à fait exact, il vaudrait mieux dire de l'hôpital, puisque l'hôpital, ce n'est pas l'État, c'est un établissement public. Enfin, j'emploie le terme État, là, dans ce dont je suis en train de vous parler en ce moment, d'une manière très générale, comme étant l'ensemble des personnes publiques. Enfin, la faute simple, stricto sensu, pour toutes les autres activités qu'on peut rencontrer à l'hôpital, suffit, et non seulement elle suffit, mais même elle est présumée, chaque fois que vous ressortez de l'hôpital, en gros, avec un préjudice, chaque fois que vous ressortez de l'hôpital avec une maladie que vous n'aviez pas quand vous y êtes entré, la position est que le simple fait que vous ayez un préjudice est la preuve qu'il y a une faute du service. Autrement dit, il y a présomption de faute et une présomption quasi irréfragable qui fait donc que systématiquement, quand vous sortez de l'hôpital avec quelque chose que vous n'aviez pas en arrivant, vous êtes sûr d'être réparé. Sans avoir à démontrer, sans avoir apporté la preuve d'une faute. Ce qui revient donc, en fait, pratiquement à une responsabilité sans faute, puisqu'elle a un caractère automatique, servant au même qu'une responsabilité pour risque. Donc, quand on voit cette évolution très très voisine de celle qu'on connaît en droit de la responsabilité médicale, mais en droit privé, non pas en droit public, c'est-à-dire pour la responsabilité dans les cliniques privées et non pas à l'hôpital, on se rend compte qu'il y a donc presque alignement de la position du juge administratif par rapport au juge judiciaire, et ce, en fait, dans un nombre croissant de cas où, auparavant, on faisait une différence entre responsabilité administrative et responsabilité civile. Les facteurs de cette évolution et de cette confusion des genres, c'est essentiellement l'exigence de justice de la part des citoyens, qui demandent, en fait, à être réparés dans tous les cas, lorsqu'un préjudice leur a été causé par l'État, mais c'est aussi, de manière croissante, une pression du droit communautaire, ou plus généralement du droit européen, que ce droit européen soit le droit de l'Union européenne ou le droit de la Cour européenne ou de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus en plus, les instances européennes qui comportent des juridictions, la Cour de justice des communautés européennes d'un côté, la Cour européenne des droits de l'homme de l'autre, ces cours traitent la question de la responsabilité comme s'il n'y avait pas à faire de différence entre la responsabilité de l'État et la responsabilité des autres personnes. Si bien que les autorités françaises, et en particulier les juges français, sont obligés de plus en plus d'aligner leur propre jurisprudence sur la position des instances européennes. Ce qui fait donc que l'effacement de la distinction est croissant. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, la responsabilité pénale, c'est la même chose que la responsabilité civile. Normalement, il n'y en a pas. En principe, l'État ne peut pas être pénalement responsable. Il ne peut pas l'être parce qu'il est souverain. Ceci est toujours officiellement le cas, ça l'a toujours été, mais ça l'a été réaffirmé de manière tout à fait éclatante par le nouveau code pénal de 1994, article 121.2 du code pénal, nouveau code pénal de 1994, les personnes morales, à l'exception de l'État, sont responsables pénalement selon les distinctions, etc. Autrement dit, le nouveau code pénal qui introduit quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la possibilité d'une responsabilité pénale des personnes morales, l'admet pour toutes les personnes morales, sauf l'État. Autrement dit, toutes les personnes morales, les sociétés, les associations, mais aussi les collectivités locales, mais aussi les établissements publics, toutes les personnes morales de droit privé, de droit public, sont pénalement responsables, comme les individus, mais seule exception, c'est l'État. Alors, en dépit de ce principe qui a été réaffirmé récemment, il y a malgré tout une évolution. D'abord, comme je viens de le dire, le nouveau code pénal admet la responsabilité pénale des autres personnes morales, et en particulier des personnes morales de droit public. Parmi les autres personnes morales, et qui sont des personnes publiques comme l'État, il y a par exemple les collectivités locales. Comme par ailleurs le code pénal ancien et le code pénal nouveau admettent la possibilité de délits et de crimes qui n'ont pas de caractère intentionnel, mais qui peuvent être commis par le simple fait que la personne qui a agi avec imprudence, ou avec manque de vigilance, ou parce qu'il a mis en danger la personne d'autrui, même sans l'intention de le faire, vous savez qu'il est résulté de cette admission d'une possibilité de faire des délits ou des crimes de manière non intentionnelle, il en est résulté la pratique des tribunaux dans le domaine pénal, la pratique qui consiste à demander à des maires ou à des responsables d'établissements scolaires ou à des professeurs de rendre compte pénalement de leurs décisions lorsque ces décisions ont entraîné la mise en danger de la vie d'autrui, comme ça a été par exemple le cas de l'affaire du DRAC, par exemple, de ces enfants qui avaient été emmenés par leur institutrice et qui ont été emportés par un barrage de l'EDF qui lâchait les vannes. Déjà, il y a eu un premier pas vers l'admission d'une responsabilité pénale d'agents, non pas de l'État, mais de personnes publiques, qui agissent donc, non pas proprement directement parler comme des représentants de l'État, mais comme des représentants tout de même d'une personne morale, qu'il s'agisse d'un établissement public ou d'une collectivité locale, qui représente l'autorité. Mais aussi et surtout, il est apparu récemment un cas qui a défrayé la chronique et qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui, lui, pose vraiment directement le problème de la responsabilité pénale de l'État. Ce cas, c'était l'affaire du sang contaminé, et le jugement des ministres, des trois ministres, enfin le Premier ministre, le ministre de la Santé et le ministre des Affaires sociales de l'époque, M. Fabius, Mme Georgina Dufoy et M. Edmond Hervé, devant la Cour de justice de la République l'année dernière, qui ont eu à répondre sur le terrain pénal de leurs agissements, non pas en tant que personnes privées, pour des questions de corruption par exemple, mais bel et bien en tant qu'agent de l'État, en tant que ministre, pour des faits qui leur étaient imputables en tant que décideurs dans l'exercice même de leur fonction ministérielle. Si bien que ce n'est pas l'État proprement parlé qui a été à la barre, qui a dû, enfin pas à la barre, parce que, mais enfin qui a dû rendre compte sur le terrain pénal de ses agissements, mais c'était des individus envisagés dans leur qualité d'agent de l'État en tant que tel. Donc on peut véritablement considérer que de manière indirecte, le jugement concernant l'affaire du sang contaminé, le jugement des ministres, était bel et bien un jugement de l'État sur le plan pénal. Ce qui fait qu'il y a évidemment l'admission progressive, même si c'est de manière encore indirecte, d'une responsabilité pénale de l'État. Or, ce jugement des ministres, qu'est-ce qu'il a permis ? J'ai parlé tout à l'heure, concernant les agents des collectivités locales, etc., de réforme du code pénal. Qu'est-ce qui a permis de juger les ministres ? C'est la Constitution. C'est la Constitution, et c'est plus particulièrement la Constitution depuis 1993, c'est-à-dire depuis une révision de la Constitution, qui a instauré un organisme nouveau, qui n'existait pas donc avant, dans la période qu'elle est de 1958 à 1993, sous la Ve République. Cet organisme, c'est une juridiction pénale spécialisée dans le jugement des ministres. Cette juridiction mise en place par la Constitution, à partir de 1993, s'appelle la Cour de justice de la République. Alors, bon, excusez-moi, on vient de me dire qu'il me restait que c'était la conclusion. En fait, je suis en train d'aborder la deuxième partie de mon exposé, donc je ne sais pas du tout. Vous voyez à quel point, enfin, vous me direz que tout le monde doit dire la même chose, mais moi, là, j'ai vraiment l'impression d'être en mission impossible. Mais donc, Je conclus juste pour dire, sans vous pouvoir la décrire, peut-être y aura-t-il des questions qui me permettront au moment des réponses de détailler les choses à ce sujet, que donc, si avant l'instauration de la Cour de justice de la République, il y avait la possibilité de juger pénalement les ministres, c'était devant une instance qui avait un caractère essentiellement politique. C'était ce qu'on appelait la Haute Cour de justice, et la Haute Cour de justice, ça n'était jamais rien d'autre que le Parlement, enfin, moyennant certains aménagements techniques, mais c'était les députés et les sénateurs qui se réunissaient en une formation qui exerçait la justice pénale des ministres, mais en fait, quand les ministres passaient devant la Haute Cour, c'était des ministres qui passaient devant les parlementaires, députés et sénateurs, pour rendre compte de leurs faits et gestes sur le plan pénal, mais ils étaient jugés, en fait, par des hommes politiques, c'est-à-dire des politiques étaient jugés par des politiques, même si ceux qui jugeaient devaient le faire en application du code pénal. Ce que fait la révision constitutionnelle de 1993, c'est d'instaurer un organisme pour juger pénalement les ministres qui présente non pas un caractère entièrement juridictionnel, mais un peu plus juridictionnel qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des parlementaires qui siègent dans la Cour de justice de la République, il y en a 12, 6 députés, 6 sénateurs, mais il y a en plus 3 membres de la Cour de cassation, et l'un de ces 3 est le président de la Cour de justice de la République. Autrement dit, il y a une composition qui n'est plus strictement parlementaire et constituée uniquement d'hommes politiques. Deuxièmement, alors qu'avant, pour mettre en accusation un ministre, c'était les parlementaires qui le faisaient. Les parlementaires mettaient en accusation le ministre, et puis le ministre était ensuite jugé par la Haute Cour de justice, qui était elle-même constituée de parlementaires. Dorénavant, depuis 1993, c'est une commission des requêtes composée de magistrats qui met en accusation les ministres, soit de sa propre initiative, soit parce qu'elle a reçu des plaintes de la part des individus. C'est dans ces conditions que, dans l'affaire du sang contaminé, les choses se sont mises en place jusqu'à l'aboutissement qu'on connaît, c'est-à-dire effectivement le jugement, mais qui est celui que vous savez, c'est-à-dire non culpabilité pour 2 des 3 ministres, culpabilité pour le 3e, mais sans condamnation à une peine. Mais donc, voilà ce qui s'est passé d'une manière qui est plus ou moins dénuée de précédent. Dès un jugement pénal de ministre, on avait connu ça dans l'histoire politique française, on en a connu même dès la Révolution, on en a connu à plusieurs reprises, mais on n'avait jamais connu de responsabilité, de jugement pénal des ministres qui présente un caractère aussi juridictionnellement organisé et où il s'agisse de véritablement traiter les ministres véritablement comme des délinquants. Alors, c'était la deuxième grande chose que je voulais dire, c'est que, en raison même de ce que je viens à l'instant de dire, c'est-à-dire l'idée d'une délinquance possible des ministres, il y a eu sur le terrain de la pensée juridique, quand je dis pensée juridique, j'utilise un terme peut-être exagéré, enfin disons chez les juristes, ceux qui plus ou moins pensent, c'est-à-dire les universitaires, une réaction d'hostilité très grande. On a considéré que cette évolution était non seulement politiquement inquiétante, parce que si on se met à juger les ministres sur le terrain pénal pour tout agissement de leur fait, on risque de paralyser l'État, parce que aucun ministre n'osera plus ni décider, ni ne pas décider, parce qu'en plus, dans l'affaire du sang contaminé, ce qu'on a reproché aux ministres, c'est pas d'avoir décidé quelque chose, c'est de ne pas avoir décidé, justement. On leur a reproché de ne pas avoir décidé à temps de retirer les produits sanguins non chauffés, et de ne pas avoir non plus à temps décidé de faire des tests de dépistage. Donc, on lui a reproché d'avoir temporisé. On a reproché à l'État ou au ministre d'avoir temporisé, au gouvernement d'avoir temporisé, et de ne pas avoir agi comme il aurait dû le faire. Et c'est le fait de ne pas avoir agi en temps voulu qui est constitutif non seulement d'une faute, pouvant faire jouer la responsabilité administrative, mais également constitutif d'une infraction pénale. Donc inconvénient politique, mais aussi inconvénient, plus pratiquement, de manière peut-être encore plus importante, inconvénient vraiment théorique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'État, si c'est une personne comme toutes les autres, qui peut être jugée pénalement responsable des décisions même qu'il a pu prendre dans le gouvernement quotidien. Quelle est l'étendue des pouvoirs précis de cette personne particulière qu'est l'État et quelle est la branche du droit qui lui est applicable? Si on dit qu'on peut appliquer le droit pénal aux agissements de l'État en matière gouvernementale, ça veut dire qu'on applique le droit commun, qu'on applique le droit qui s'applique aussi à ceux qui font des hold-up, à ceux qui violent les enfants, vous voyez ce que je veux dire? On traite véritablement l'État comme n'importe quel délinquant de droit commun. Dans ce cas, il se pose un problème de en fait, de définition du droit qui s'applique à l'État d'une manière plus générale et de définition du droit public par rapport au droit privé. C'est la raison pour laquelle plusieurs auteurs, alors quand je dis plusieurs auteurs, c'est parce que je pense en particulier à certains juristes, mais en fait, cette réaction a été partagée par énormément de monde. Il y a eu des intellectuels, par exemple, les dirigeants de magazines, enfin de revues, comme Le Débat, comme Commentaire, comme Esprit. Il y a eu plusieurs philosophes, en particulier, je pense à Blandine Barret-Criégel, qui a écrit un livre sur la question. Et il y a eu également beaucoup de journalistes qui ont tous dit: la reconnaissance de cette responsabilité pénale des ministres est en soi absolument insupportable parce que les agissements des ministres, qui sont des agissements politiques, ce sont des décisions qu'ils prennent, sont du ressort naturel et exclusif de ce qu'on appelle la responsabilité politique. Que donc soumettre ces ministres à la responsabilité pénale, c'était confondre la responsabilité politique et la responsabilité pénale, c'était faire indûment pénétrer la responsabilité pénale dans la sphère de la responsabilité politique, c'était confondre les genres, et c'était donc dénaturer notre démocratie qui repose sur le principe d'une responsabilité essentiellement politique des gouvernants. Bon, je voudrais très rapidement, dans la poignée de secondes qui me reste, commenter cette simple affirmation qui a été celle de la plupart des personnes qui s'étaient prononcées publiquement à l'époque, qui vraiment, dans leur très grande majorité, étaient archi-hostiles à l'idée du procès qui s'est déroulé devant la Cour de justice de la République, pour une question de principe. Parce que, disait-on, il y a, en raison de cette évolution, une confusion entre responsabilité politique et responsabilité pénale. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que cette affirmation, qu'il y a confusion entre responsabilité politique et responsabilité pénale, est une affirmation qui, à mes yeux, est elle-même une confusion. C'est-à-dire que de vouloir dire qu'il y a d'un côté la responsabilité politique, de l'autre la responsabilité pénale, et qu'on ne doit pas mélanger les genres, que les agissements de l'État, qui sont des décisions, ressortissent par nature à la responsabilité seulement politique et jamais à la responsabilité pénale, c'est, à mon avis, non seulement c'est pire qu'une confusion, auprès des citoyens auxquels on est en train de dire des choses pareilles, je me demande si c'est même pas carrément de la manipulation, voire du mensonge. Parce que s'il y a bien quelque chose de caractéristique de la responsabilité politique, c'est que contrairement à ce que le syntagme ou l'expression suggère, c'est qu'on peut dire qu'il est question de tout en matière de responsabilité politique, sauf de responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est pas de la responsabilité. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité, ni avec la responsabilité civile, ou la responsabilité administrative, c'est-à-dire la responsabilité civile qui s'impose à l'État, ni à voir avec la responsabilité pénale. La responsabilité civile, qu'est-ce que c'est ? C'est l'obligation de réparer le dommage causé par un agissement, que cet agissement soit fautif ou non fautif, dès lors qu'on peut établir qu'il y a une causalité entre le dommage et l'agissement. Si, en gros, c'est bien l'agissement qui est la cause du dommage, alors on est obligé de réparer le préjudice. La responsabilité pénale, ce n'est pas une obligation de réparer, puisqu'en droit pénal, le criminel n'a pas à réparer les dommages causés à la victime. Si c'était le cas, on ne serait pas dans une hypothèse de droit pénal moderne, on serait dans une hypothèse de rapport intersubjectif entre la victime et le criminel, et on serait donc dans un cas en fait de vengeance. Ce n'est pas pour réparer le dommage de la victime qu'on demande des comptes au criminel, c'est pour que le criminel en fait rende compte de ses agissements devant la société tout entière, à partir du moment où, par son agissement, il est considéré comme ayant troublé l'ordre public de manière essentielle. Mais dans tous les cas, il y a une obligation, soit sur le plan civil ou administratif d'un côté, soit sur le plan pénal de l'autre, il y a une obligation de répondre de ses actes devant un juge, parce qu'on a soit commis un préjudice et on en est directement responsable, on est l'auteur d'un préjudice, soit on a commis un délit ou une infraction d'une manière plus générale et on en est responsable, on est absolument tenu de répondre de ses agissements. Ce qu'on appelle la responsabilité politique, en revanche, qu'est-ce que c'est ? Quand on dit que le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement, on dit tout simplement rien d'autre que le Parlement peut révoquer les ministres, peut les renverser, non pas du tout parce qu'ils ont commis une faute, mais uniquement parce que le Parlement, pour des raisons totalement discrétionnaires, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le droit, pour des raisons, bref, purement politiques, décide de se défaire de ses ministres. C'est parce que, au Parlement, la majorité des députés qui y siègent ne veulent plus de ces ministres, qu'ils révoquent ces ministres. Et les ministres doivent s'en aller uniquement parce que... je schématise extraordinairement, mais enfin, en gros, c'est l'article 49 de la Constitution qui définit la responsabilité des ministres devant le Parlement, c'est-à-dire plus précisément devant l'Assemblée nationale. Et donc, en gros, il suffit à l'Assemblée nationale de voter une motion de censure pour renverser un gouvernement, sans qu'il y ait lieu, dans cette motion de censure, de dire que le gouvernement a commis quelconque faute. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une faute. Il ne s'agit pas de dire non plus qu'il est l'auteur d'un dommage. Il s'agit de dire tout simplement que le gouvernement conduit une politique qui ne plaît plus aux députés, que les députés ne veulent plus de cette politique-là. Il n'est même pas obligé de le dire. Il peut dire tout simplement « je ne veux plus de ces ministres ». « Je ne veux plus de ce Premier ministre en particulier ». La tête de ce Premier ministre ne me revient pas, donc je le renverse. Point. Voilà ce que c'est, ce qu'on appelle la responsabilité politique. Alors, ça m'est absolument impossible, puisqu'en fait, je crois que je suis arrivé au terme du temps imparti. Il y en aurait au minimum pour une bonne demi-heure supplémentaire pour vous expliquer que la responsabilité politique trouve son origine historique en Angleterre au XVIIIe siècle. À l'origine, il s'agissait justement d'une responsabilité pénale, et cette responsabilité pénale s'est transformée progressivement en responsabilité politique, c'est-à-dire en fait en irresponsabilité, c'est-à-dire que tout simplement on a considéré progressivement, parce que justement, le souverain qui au départ était le roi, est devenu de plus en plus le peuple. À partir du moment où on dit que c'est le peuple qui est le souverain et que c'est les députés représentants du peuple qui représentent le souverain, que donc tous les autres organes de l'État, et notamment le pouvoir exécutif, sont responsables devant les représentants directs du souverain. C'est ça que ça veut dire. Que donc le souverain peut révoquer les ministres comme Louis XIV pouvait révoquer ses ministres. Vous voyez ce que je veux dire ? Un ministre est responsable devant le souverain comme un subalterne est responsable devant son supérieur hiérarchique. Point. Et qu'il ait commis une faute ou pas. Et dans ces conditions, ceux qui vous disent on confond responsabilité politique et responsabilité pénale en faisant le procès du sang contaminé, vous disent tout simplement on confond responsabilité et irresponsabilité. Ben justement, l'idée avec la réforme constitutionnelle qui a instauré la Cour de justice de la République, c'est qu'il soit véritablement possible de responsabiliser les ministres quand ils prennent des décisions politiques qui ont entraîné des décès, qui ont eu des répercussions sur la vie même, sur l'existence même des gens, alors qu'auparavant, il n'y avait aucune possibilité de demander le moindre compte aux dirigeants, précisément parce qu'il n'y avait qu'une responsabilité politique, et une responsabilité politique, ce n'est pas vraiment de la responsabilité. C'est foncièrement de l'irresponsabilité. Bon, il est donc inexact de dire qu'il y a dénaturation de la démocratie, parce que on peut considérer... D'ailleurs, il faut dire au passage que de la responsabilité politique, il n'y en a pas dans toutes les démocraties. Il n'y en a que dans les démocraties qui ont un régime parlementaire. Il n'y a que dans les régimes parlementaires que les gouvernements sont responsables devant le Parlement. Mais il y a d'autres régimes dans les démocraties contemporaines qui ne sont pas des régimes présidentiels, qui ne sont pas des régimes parlementaires, mais qui sont des régimes présidentiels. Exemple, États-Unis. Et aux États-Unis, l'exécutif n'est pas responsable devant le législatif. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, pour une raison d'ailleurs très simple, puisqu'aux États-Unis, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a qu'un président de la République et des collaborateurs d'un côté, un Parlement de l'autre, et le Parlement ne peut en aucun cas renverser le président et ses collaborateurs. Personne n'ira jamais dire, pour autant, que les États-Unis ne sont pas une démocratie, pourtant il n'y a pas de responsabilité politique des ministres aux États-Unis. Donc, impossible de vous dire un certain nombre de choses que je tenais absolument à vous dire, qui est le problème d'une confusion effectuée entre une nature pénale des choses et une nature politique des choses de la part de ceux qui protestent contre l'évolution du droit qui admet la responsabilité politique, la responsabilité pénale des ministres. Mais puisque j'ai pas le temps, j'y renonce et je conclue simplement pour dire qu'il y a évidemment dans le droit contemporain une montée en puissance de la responsabilité de l'État, une responsabilité qui est de plus en plus celle de tout le monde, soit que l'on se situe sur le terrain de la réparation des dommages, c'est-à-dire de la question de la responsabilité civile, puisque de plus en plus la responsabilité non civile de l'État, la responsabilité dite administrative, est de plus en plus proche de la responsabilité civile qui s'impose aux personnes privées, d'une part, et puisque d'autre part, l'État, lui, par ailleurs, sur le terrain pénal, s'il ne peut pas être mis en cause directement, il peut l'être indirectement, comme ça a été le cas à propos de l'affaire du sang contaminé, et comme on voit que ça risque de l'être de nouveau pour d'autres affaires ultérieures. Alors évidemment, cette évolution est problématique. Les juristes de droit public qui se rebellent contre cette évolution, on peut les comprendre. dans la mesure où leur spécialité étant de rendre compte du droit opposable applicable à l'État en tant que tel dans sa singularité, il est très difficile, avec cette évolution, de maintenir cette position traditionnelle d'un droit public qui se définisse comme dérogatoire du droit commun, comme étant un droit qui n'est pas celui des personnes privées. De plus en plus, l'État devient comme les autres personnes. Mais le problème, c'est qu'à force de devenir comme les autres personnes, étant assujetti aux mêmes obligations que les autres, peut-on encore imaginer que l'État puisse rester l'État, c'est-à-dire puisse continuer de commander aux autres personnes, s'il n'a plus de privilèges, en gros? Peut-il faire valoir une supériorité de position par rapport aux personnes privées qui lui donne la possibilité de prétendre les commander? Évidemment, l'idée du droit public traditionnellement entendu, c'est que c'est un droit de privilège. Et le secteur de la responsabilité en était la meilleure illustration. Le fait que ces privilèges progressivement disparaissent est problématique. Et donc, l'enjeu est de savoir s'il sera possible de penser un droit public des sociétés contemporaines qui permettent de concilier deux choses qui paraissent s'exclure, c'est-à-dire le fait que l'État, pour rester l'État, doit toujours apparaître comme une personne privilégiée, et par ailleurs le fait qu'ils doivent de plus en plus se soumettre aux droits communs, par exemple en matière de responsabilité. Et cette quadrature du cercle, c'est l'enjeu de la pensée juridique des années à venir, mais il n'est pas certain qu'on trouve une solution dans la mesure où, là, véritablement, les exigences sont si contraires qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait y parvenir. Je vous remercie.
Bonsoir monsieur. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, notamment sur l'arrêt Cannes de 1898, si je me trompe. Vous avez dit que c'était la première fois qu'on définissait le risque au travail. J'ai la chance de travailler dans un service public. Je peux vous dire que l'État, dans ses affaires, en cas d'accident de travail, d'ailleurs je devrais dire accident de service, parce que l'accident de travail n'existe pas dans la fonction publique, ce n'est qu'un accident de service. Si on déclare un accident de travail dans la fonction publique, le Conseil d'État se charge rapidement de dénoncer ce défaut de langage et donc de débouter l'agent qui veut faire reconnaître ses droits. Donc un accident de service. On voit que l'État, dans cette histoire, est jugé parti. On l'a vu également dans l'affaire du sang contaminé, où ce sont, comme vous l'avez dit, des députés et des sénateurs qui jugent des ministres. On le voit dans de tas d'autres situations où l'État est juge et parti. Pensez-vous qu'il n'y a pas une réelle hypocrisie dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on voit une montée en puissance de la responsabilité de l'État alors qu'il est juge et parti, il nomme lui-même les juges dans certains cas, dans d'autres cas ce sont les parlementaires qui jugent leur pair, parce que certains ont été ministres ou le seront. Voilà quoi. Y a-t-il pas une certaine hypocrisie dans ce système, finalement ?
Alors, pour répondre rapidement, parce qu'il y a énormément de choses que vous avez dites qui sont à la fois tout à fait justifiées, puis en même temps, il y a des nuances à apporter, c'est-à-dire hypocrisie dans le fait que l'État soit jugé parti, oui. Mais dans une certaine mesure, de toute manière, l'État est toujours jugé parti parce que tout juge est toujours un agent d'État, de toute façon. Même un magistrat, c'est un agent de l'État, un magistrat de l'ordre judiciaire. Donc de toute façon, il y a un problème à propos de la justice, c'est que de toute façon, si on veut faire un procès à l'État, comme ce procès ne peut être assuré que par un juge qui lui-même, en tant que juge, ne peut se définir que comme agent de l'État, il est difficile d'échapper à l'aporie d'un... et donc à une sorte de simulacre de la justice, puisque l'État apparaît toujours, peu ou prou, comme étant juge et parti. Mais il est vrai qu'en matière administrative, ou comme en matière de responsabilité pénale des ministres, les choses sont encore plus évidentes, puisque le juge spécifique de l'administration en matière de responsabilité administrative, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros, le juge administratif et le Conseil d'État en fin de compte, et ce juge, la nomination de ces juges ne se fait pas du tout comme pour les juges de l'ordre judiciaire par la réussite du concours à l'École nationale de la magistrature, mais par la réussite du concours de l'École nationale d'administration, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque c'est la réussite à un concours de fonctionnaires. Et donc, comme il s'agit de juger la fonction publique en droit administratif, ce sont donc normalement, du point de vue purement juridique, des fonctionnaires qui jugent la fonction publique. Donc là, vraiment, l'administration est juge et partie avec la justice administrative, même si, en fait, les membres du Conseil d'État se comportent de manière indépendante comme les magistrats de l'ordre judiciaire. Deuxièmement, l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République, vous dites les ministres ont été jugés par d'autres hommes politiques, ce qui est vrai, et donc ça a été dit que donc de toute façon il s'agissait d'un simulacre de justice pénale. La seule chose, c'est que c'est quand même moins vrai qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a eu un progrès dans le fait qu'on soit passé d'une haute cour de justice où il n'y avait strictement que des parlementaires à une instance où il y avait toujours des parlementaires, mais aussi des magistrats professionnels, et notamment, pas seulement notamment, mais les trois magistrats qui siègent dans la Cour de justice de la République sont tous les trois de la Cour de cassation, c'est-à-dire présentent justement toutes les garanties d'indépendance, etc. Et comme c'est le président, comme c'est un des membres de la Cour de cassation qui est président de la Cour de justice de la République, on peut aussi penser que du fait de ses prérogatives de président, il veillera à... communiquer l'esprit d'indépendance au sein de la juridiction de la Cour de... Bon, enfin, il est évident qu'une fois qu'on a dit ça, le problème que vous avez évoqué demeure, et que, en gros, la justice pénale des ministres demeure une justice très, évidemment, hybride, qui présente un caractère politique marqué, d'où, évidemment, la facilité avec laquelle ceux qui ont protesté contre ce jugement pénal des ministres ont pu le faire, en disant, de toute manière, c'est pas net, c'est pas vraiment du jugement pénal, on pervertit tout, c'est ni vraiment de la responsabilité politique, c'est pas vraiment de la responsabilité pénale, c'est un mélange des deux, c'est l'impureté, c'est pas clair, et d'ailleurs, c'était ce que tout le monde avait fini par dire à l'issue du procès, rien n'était clair dans ce procès, puisque d'ailleurs, on a réussi à dire que quelqu'un était coupable sans néanmoins être condamné à une peine, ce qui, finalement, donnait raison a posteriori à la formule d'une des personnes qui devaient rendre des comptes, c'était Madame Dufoy, Georgina Dufoy, qui avait dit responsable mais pas coupable. Donc, est-ce que je veux dire, il n'y avait rien de clair dans tout ça. Mais cela dit, je pense que les réactions de rejet, si elles reposent sur un certain nombre d'inconvénients comme celui que vous venez de signaler, malgré tout, maniaient aussi des arguments qui n'étaient pas toujours de très bonne foi et surtout qui pratiquaient une assimilation indue de la responsabilité politique à une responsabilité tout court, alors justement que ce qui est politique n'est pas juridique.
Oui, monsieur.
L'avantage de prendre l'exemple du sang contaminé, c'est qu'on est sur un plan très concret. Bon, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Le politique est obligé, dans beaucoup de domaines, de nommer des experts. En l'occurrence, c'était le docteur Garetta. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est bizarre que tout repose simplement sur les épaules d'un seul expert. D'autre part, ce qui est mal précisé, c'est le rôle du politique et le rôle de l'expert. On ne peut pas accuser un politique de ne pas s'y connaître autant que l'expert. Donc il faudrait juger différemment et l'expert et le politique dans ce cas-là, mais dans d'autres cas probablement aussi. Le fait de faire de la politique, finalement, on survole les problèmes. On n'est pas à l'intérieur des problèmes, contrairement aux experts qui sont des gens hyper spécialisés et qui, eux, sont effectivement, en principe, responsables, étant donné il faut qu'il y ait une certaine évolution de la science qui permette de dire s'ils sont ou non coupables. Mais de toute façon, ce qui me paraît extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on n'est pas dit que le politique ne pouvait pas être un expert et que la responsabilité, si responsabilité il y a, était celle de l'expert. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait un seul qui a été condamné, ce qui prouve, semble-t-il, qu'il n'y ait eu qu'un seul expert de nommé. Et ça, alors, c'est peut-être une faute du politique.
Non, enfin, je ne pense pas que les choses puissent avoir cette signification, qu'il y a eu un seul expert, etc. Il y a en cours, en ce moment, pour les personnes impliquées, mais qui ne sont pas les ministres, mais les membres des services ministériels, et en particulier qui ont eu un statut d'expert, actuellement en cours une procédure qui est justement en train de s'enclencher, mais devant le juge pénal ordinaire, le juge pénal de droit commun, où le chef d'inculpation est empoisonnement, ou tentative d'empoisonnement, à propos de l'affaire du sang contaminé. Et il y a eu précédemment, effectivement, donc la condamnation de Dr Garetta, mais pas devant les mêmes instances que les ministres, ce qui prouve bien qu'on fait la différence entre le politique et l'expert, qu'on considère que le politique a forcément une responsabilité différente ou moindre, enfin je ne sais pas comment on doit dire, mais en tout cas qu'il y a une spécificité de son intervention et une responsabilité particulière. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une manière plus générale, ce que vous soulignez, c'est-à-dire l'articulation entre le pouvoir de l'expert et le pouvoir du politique, le pouvoir politique étant dans la dépendance, évidemment, des avis qui sont rendus par les experts, mais le politique ayant quand même pour mission d'avoir à prendre une décision que l'expert, lui, n'a pas à prendre, et l'articulation entre ces deux prérogatives et la part de pouvoir réel qui est exercée par l'un et par l'autre, c'est en fait une question absolument centrale qui est de plus en plus cruciale. Et c'est l'une des principales raisons du succès d'un principe juridique dont je n'ai pas parlé, qui est pourtant fort célèbre et qui était assez directement lié au sujet, c'est le fameux principe de précaution. Le principe de précaution, c'est ce principe qui a pour contenu d'imposer à l'homme, aux décideurs politiques de ne rien décider, par exemple une autorisation de mise sur le marché d'un produit quelconque, dans un contexte où les experts sont en désaccord sur les risques que présente le produit considéré. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il y a controverse scientifique, quand il y a divergence dans les expertises à propos de la dangerosité d'un produit, le principe de précaution fait obligation à l'autorité de ne rien décider, ou bien de revenir sur la décision qu'il a prise s'il a déjà décidé, par exemple, d'autoriser la mise sur le marché de ce produit. Et ce qui fait que, puisque c'est pour lui une obligation, pour l'homme politique, c'est la démonstration qu'il est terriblement dans la dépendance des experts pour sa prise de décision politique, et en même temps, c'est la montée en puissance de la responsabilité des hommes politiques, parce que là, c'est une obligation de ne rien faire quand il y a éventuellement un danger, même si on ne sait pas s'il y a vraiment du danger. Alors que, par exemple, dans l'affaire du sang contaminé, c'était le contraire. C'était l'obligation de faire qui s'était imposée, et sur le terrain pénal, au ministre. Enfin, sauf que là, en l'occurrence, ils ont été considérés comme innocents et non pas comme coupables. Mais enfin, dans l'idée de poursuite pénale contre eux, ce qui était en arrière-pensée de ceux qui faisaient les poursuites, c'était l'idée qu'on a l'obligation d'agir, dans certains cas, pour faire cesser un danger. Donc, en gros, ce qui résulte, pour finir, c'est que des obligations incroyables qui pèsent sur les hommes politiques, non seulement dans le sens de décisions qui sont à prendre, mais aussi dans le sens de décisions à ne surtout pas prendre. C'est-à-dire que les hommes politiques doivent rendre des comptes et à peu près pour qu'ils décident de décider ou de ne pas décider, dans tous les cas, et donc c'est cette idée de paralysie. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc un contrôle sur, en fait, l'opportunité des prises de décision, sur véritablement ce qui est du domaine du politique par excellence. Est-il opportun ou pas de décider telle ou telle chose, de mettre sur le marché le maïs transgénique, vous voyez ce que je veux dire, bon. Mais cette idée d'opportunité, est-ce bien ou mal, opportun ou inopportun, avisé ou non avisé de prendre cette décision à ce moment-là, dans tel contexte, etc., ou non, c'est justement ce que dans le vocabulaire des philosophies politiques, à la suite d'Aristote, on appelle la prudence, la vertu pratique par excellence, la vertu politique par excellence. Or, aujourd'hui, la prudence est saisie par le droit, c'est-à-dire qu'on impose aux politiques l'obligation d'être prudent. La prudence n'est plus une vertu morale de l'homme politique, c'est une obligation juridique.
Oui, une toute dernière question qui sera très brève. Merci. Bon,
je voulais vous demander une chose concernant le problème de la responsabilité et de la des possibilités de mise en cause justement des hommes politiques. Et est-ce qu'il ne faut pas revenir à la notion de service, c'est-à-dire est-ce que ce n'est quand même pas le gouvernement, enfin l'État, qui est au service du peuple souverain et qui a des obligations et non pas des privilèges, c'est-à-dire tout privilège étant peut-être simplement le résultat de ses obligations et non pas un privilège en lui-même. Est-ce que ce n'est pas une manière d'essayer de redéfinir une responsabilité au sens strict, puisqu'en fait, il y a quand même, à partir du moment où on est au service de quelqu'un, ou toute personne qui commet une action au service de n'importe qui, ne doit pas non plus faire n'importe quoi. Et juste un petit corollaire, quel est le clivage exact entre le fait que l'État est composé d'un certain nombre de fonctionnaires et la responsabilité entre ces fonctionnaires en tant qu'individus et la responsabilité globale? Est-ce que le fait qu'ils ont l'air plus ou moins irresponsables
lorsqu'il parle au nom de l'État, est-ce que ça n'induit pas un certain nombre de travers? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ce clivage-là entre les deux?
Non. Dans tout ce que vous avez dit, il y a énormément de choses. C'est-à-dire, premièrement, la fin de ce que vous venez de dire, l'État, c'est surtout des fonctionnaires. Ce n'est pas seulement des fonctionnaires, c'est aussi, par exemple, des élus. Donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'on doit rendre compte devant les élus quand on est un membre du gouvernement. Mais surtout, il est résulté de ce que j'ai essayé d'expliquer que, par exemple, pour ce qui est du cas des fonctionnaires, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables. Il y a une responsabilité qui s'impose à l'administration. Elle n'est pas aussi étendue en principe, et c'est de moins en moins le cas, que la responsabilité des personnes privées en matière de responsabilité civile. Mais enfin, elle existe quand même, elle est sanctionnée par un juge. Et c'est quand même ce qu'il faut essentiellement retenir. C'est-à-dire que l'état de droit, c'est une réalité de ce point de vue. Alors, en tant qu'individu, effectivement, ils n'ont pas à répondre, sauf cas de faute personnelle, c'est sûr. Ça, d'accord. Mais... oui, bon, enfin, d'accord, mais ça me paraît plutôt être une bonne chose que les individus ne soient pas obligés de répondre, puisque ce n'est pas en tant qu'individu qu'ils ont agi, mais en tant qu'agent de l'État, que c'est la responsabilité donc du service et non pas la leur. Et puis deuxièmement, si on admettait qu'ils devaient être, par exemple, civilement responsables à titre individuel, il faudrait qu'ils soient solvables. Quand on sait les extraordinaires conséquences dommageables que peuvent revêtir certaines décisions, on ne résoudrait pas beaucoup de problèmes parce que pratiquement, ce ne serait pas possible de le mettre en œuvre. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est que l'idée que vous formuliez au début, qui était est-ce qu'il n'est pas normal que on soit responsable devant l'État soit responsable devant le peuple, c'était une des difficultés aussi que je voulais signaler pour le traitement du sujet, c'est que quand on dit ça, ça a l'air évident, effectivement. L'État, ses agents, sont au service du peuple et le peuple est le souverain. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on a dit une chose qui est, quand on rentre dans l'examen de la nature juridique des choses, on est confronté à des tas de difficultés, en particulier le fait que ce qu'on appelle le souverain, c'est-à-dire le peuple, alors d'abord, il y a effectivement la souveraineté du peuple d'un côté, il y a la souveraineté de l'État de l'autre. Alors, parle-t-on exactement de la même souveraineté dans les deux cas ? Mais même si on admet l'idée de souveraineté du peuple, il faut encore se demander ce que c'est que le peuple, sinon un concept juridique qui n'existe que parce qu'il y a déjà l'État. C'est-à-dire, prenez le cas le plus pur où le peuple peut exprimer sa volonté directement, le cas d'un référendum, par exemple, comme il est question d'en faire un dans quelques mois. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui va exprimer sa volonté le jour de ce référendum ? C'est évidemment pas le peuple au sens métaphysique du terme. Ça sera le corps électoral. Ça sera le corps électoral des citoyens détenant le droit de vote qui se sera exprimé ce jour-là. Et le corps électoral, il est fixé par une loi électorale qui détermine ceux qui peuvent voter. Ce sont les citoyens majeurs de 18 ans, des deux sexes, etc. Puis ça peut changer, ça peut être d'un seul sexe si on veut, ça peut être de 21 ans si on veut, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'est-ce qui fait cette loi ? Ben, c'est l'État. Donc, quand on parle de la souveraineté du peuple, est-ce qu'on sort de l'idée de souveraineté de l'État ? J'en suis pas sûr. Et est-ce qu'on ne fait pas valoir un concept qui est plus métaphysique qu'autre chose, une sorte de lieu vide dont parlait Claude Lefort dans sa conférence de la semaine dernière, dans cette même enceinte ?
Professeur Kella, merci beaucoup.
Merci.